André Limbouima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre et de choisir Radio Okapi, la fréquence de la paix. Lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Les FARDC appuyés par la MONUSCO ont récupéré certains territoires et autres villes jadis occupées par le mouvement rebelle M23. Selon le gouverneur de la province du Nord Kivu, il faut penser désormais, après ces avancées, au projet de développement et de stabilisation de cette partie sinistrée de la province. Comment capitaliser ce succès et promouvoir le développement à l'est du pays? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 43 39 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Titi Poutou, Nadine Foula et Jean-Noël Mokondo pour la réalisation de cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gata. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ce studio Mohamed Boulet, général à la retraite, vice-ministre honoraire de la Défense et honorable député. Bonjour, mon général.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, ce succès de l'armée congolaise peut-il être décisif et laisser entrevoir un retour de la paix au Nord Kivu?
Tout à fait. Je voudrais, avant toute chose, commencer par remercier toutes les structures politico-militaires en ce qui concerne la défense nationale, en commençant par le Conseil supérieur de la défense, où s'examine sur proposition amenée par les hauts commandements, donc le Conseil supérieur de la défense, pour rappel, est présidé par le président de la République, chef de l'État, qui en même temps est commandant suprême des forces armées, où les avis en ce qui concerne la mise en œuvre des troupes doivent être dégagés pour permettre de donner des directives opérationnelles à exécuter et avec l'accompagnement du gouvernement. Et donc, et en même temps aussi de féliciter les hauts commandements militaires pour l'évaluation des capacités opérationnelles, en même temps de voir la montée en puissance et pour mener des opérations afin de pacifier cette partie du territoire qui est en proie de mouvements rebelles, notamment les M23. Et donc, c'est une bonne chose. Il faut féliciter les troupes engagées au combat, les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, d'une part, et les troupes onusiennes, spécialement la brigade d'intervention, et rendre hommage à tous ces éléments qui sont tombés sur les champs d'honneur pour assurer l'intégrité de notre pays, du territoire national, et particulièrement cette partie Rutshuru, Masisi, Bunagana et autres.
Voilà, donc je disais tantôt, donc ce succès de l'armée congolaise peut-il être décisif et laisser entrevoir un retour de la paix au Nord Kivu?
Pourquoi pas? Parce qu'après le succès, selon les stratégies militaires, il faut faire l'exploitation de ces succès, ne plus permettre aux éléments qui sont totalement dégarnis, qui ont laissé les positions, pour permettre de consolider ces acquis opérationnels et pacifier totalement. Il y a aussi des mesures qu'il faut prendre, donc des mesures psychologique et pour accompagner toutes ces personnes déplacées, les familles déplacées, de façon à ce que plus rien ne soit donc laissé au hasard pour permettre aux éléments en débandade de se réorganiser. Donc il faut exploiter ça, tous les aspects. Et il faut aussi mettre en place des dispositions, je vais dire, le Conseil de guerre opérationnelle doit suivre pour que les prisonniers de guerre dans les rangs de M23 qui seraient arrêtés puissent faire l'objet d'interrogation pour savoir ce qu'ils auraient commis, parce qu'il y a beaucoup des actes criminels qui ont été commis. Il y a la spoliation des biens des personnes, il y a la violence faite aux femmes et tout ça. Il faut examiner ça au pain fin. Et aussi les éléments qui seraient pris comme prisonniers de guerre, les examiner pour connaître leur état de santé, parce que nous savons que dans cette partie, qu'on ne s'en cache pas, il y a beaucoup de choses, des maladies sexuellement transmissibles et tout ça, qui étaient propagées à dessein. Donc en direction de ces populations.
Voilà, entre-temps sur ce qui se passe sur le terrain, beaucoup d'observateurs sont très inquiets, et notamment la communauté internationale. L'envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs, Russell Feingold, a parlé d'ailleurs dernièrement d'une poudrière qui menace de provoquer une guerre régionale.
Oui, ceci est bien vrai. On doit avoir ces inquiétudes parce que c'était poudrière à entendre, donc les sources ouvertes, la radio et tout ça. À un certain moment, je pense qu'à une des émissions, les gouverneurs de la province du Nord Kivu n'a pas manqué d'évoquer cette question. Et même parmi, j'ai suivi à la radio les déclarations d'un certain commandant de ces unités M23 qui déclarait qu'ils ont suffisamment de munitions pour pouvoir tenir le coup pendant une année. Et donc, les gouverneurs avaient même précisé qu'ils avaient quelque chose comme 21 tonnes de munitions. C'est important. Et que dans cette partie du Graben, où le terrain a ses spécificités, où le M23 semble avoir pris en otage comme bouclier en main une certaine partie de la population, et à suivre les informations que nous avons, il semblerait que les dépôts de munitions du M23 ne seraient pas loin d'un centre de santé, d'un hôpital général de référence. C'est assez dangereux parce que les opérations qui seraient menées là-bas, il faut faire beaucoup d'attention parce que si cette poudrière est installée de manière à créer des dégâts et avec les explosions que ça pourrait entraîner, et ça va désorganiser même la poursuite des opérations pour les objectifs à anéantir et à ratisser dans cette partie du territoire.
Alors comment maintenant capitaliser ces succès et promouvoir au fait des projets de développement, donc disais-je, de promouvoir le développement dans cette partie de la République démocratique du Congo?
On ne peut d'abord pas parler de développement avant de n'avoir fait le bilan. Il faut faire le bilan socio-économique et quels sont les enjeux, parce qu'il y a des populations déplacées. Il faut tous ces grands secteurs, la santé, les écoles, les problèmes humanitaires, la nourriture, les logements et tout ça, les personnes qui sont là-bas vulnérables et d'autres personnes qui ont traversé la frontière. Il faut d'abord faire ces bilans-là et en même temps être sûr qu'on a neutralisé tous les éléments du M23 qui peuvent créer des poches de résistance et pour mener des actions isolées ci et là. Dès que cela est fait, en même temps que le pouvoir public aussi doit faire de façon à restaurer l'autorité de l'État, et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut penser à faire des propositions qui viendraient de la province pour des programmes intégrateurs du développement, et qu'il faudrait quantifier, qu'il faudrait faire des projections avec un chronogramme précis, parce que nous savons que nous sommes un pays post-conflit. Le premier projet qu'on a eu ici, qui a touché sa fin vers 2009, c'est
le TARIC
d'abord, oui. Et ensuite, avec le bailleur de fonds, avec la Banque mondiale, 26%, la République démocratique du Congo 20.4% et d'autres partenaires. Et le programme a été évalué en 2010. Et de manière particulière, la République démocratique du Congo aussi a lancé d'autres projets qui sont typiquement congolais avec la participation de la partie chinoise, donc le financement chinois. Et la République démocratique du Congo, en contrepartie, a convenu une exploitation des ressources minières pour...
Et tous ces projets, ce n'était que de projets mort-nés, parce que ça n'a pas eu le temps, parce que la guerre, en fait, n'a pas donné l'occasion à ces projets d'être vraiment opérationnels.
Mais il ne faut pas dire que c'était des projets mort-nés. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, parce que les projets ont commencé de quelque part pour avancer et couvrir cette partie. Vous comprenez, quand le M23 est entré dans Goma, on a vu donc les images qui étaient diffusées sur les chaînes de télévision. On a vu une partie des véhicules de l'Office des routes ou d'autres camions qui étaient destinés pour réaliser ces projets, surtout en ce qui concerne les infrastructures économiques, les routes et tout ça, partis. Et donc, ça a constitué un grand frein quant à la sécurité pour faire des reconnaissances et les études de faisabilité. Et donc, entre-temps, les chronogrammes qui étaient initialement arrêtés restent bousculés. Il faut maintenant recommencer, repartir, évaluer et voir la menace. Parce que dans cette zone-là, n'oublions pas, il y aura un problème aussi qu'on puisse examiner les terrains, donc
les avec,
avec les munitions non explosées, les mines et tout ça, et qu'il faudrait sécuriser la population pour leur permettre de rentrer. Et organiser aussi le retour pour éviter qu'il n'y ait pas de problème de conflit foncier lorsqu'on rentre et on trouve d'autres groupes ou d'autres résistances ou d'autres gens installés là-bas avec l'occupation et que cela ne puisse pas. Il faudrait que l'autorité puisse accompagner cela pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes à la suite de ces événements.
Oui, général, je crois qu'on va, on va revenir, mais parce que la plus grande question, c'est au fait ces résultats puissent s'inscrire dans la durée maintenant, pour que demain, qu'il n'y ait plus encore de cas de résurgence, hein, de la sécurité. Alors, il y a toujours une question qui revient, et nos auditeurs sont revenus par plusieurs fois sur cette même question. Qu'est-ce qui explique concrètement ces revirements, hein, soudainement, comme ça, on a vu un revirement de la situation après des mois de conflits, les FRDC qui prennent les devants. Nous avons fait plusieurs émissions avec vous ici par rapport à
la question. Tout à fait. L'art militaire a ses règles. Je vous avais dit ici, pour des cas comme ça, nous sommes sur les Graben, intérêt particulier avec des conditions atmosphériques assez climatiques assez sévères. Il faut préparer les militaires à ce type d'opération. Je l'avais toujours dit, il faut avoir des bons renseignements à temps réel et à taille utile. Même maintenant, il faut poursuivre à avoir ces bons renseignements. Quels sont devenus les résiduels, les 200-300 dont on parle? Il faut avoir la certitude. Or, si on interrogeait bien les prisonniers de guerre qu'on aurait, certainement nos services vont avoir des pistes pour permettre donc de faire. Et les opérations aussi, il faut mettre aussi en application les méthodes des opérations et des relations civilo-militaires. Parce que ces personnes qui sont déplacées pendant plusieurs années, maintenant ils risquent d'être pris au feu, entre le feu de nos éléments de forces armées appuyés par la brigade d'intervention et le feu des résiduels de M23. Et donc, cela, il faut exploiter ces succès-là jusqu'à pacifier totalement. Or, la pacification a aussi ses principes, ses règles. Il faut préparer les militaires à ce type d'opération. Vous savez que c'est une guerre qui se transforme, les autres maintenant, ils se retranchent dans le parc et puis dans la forêt. Il faut alors mener des opérations et très bien préparer minutieusement pour anéantir et traquer jusque dans leur dernier retranchement ces éléments.
081 890 43 39 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
C'est parce que Radio Capine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. A vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos messages par rapport à cette thématique que nous allons les lire d'un moment à l'autre. Le temps d'accorder la parole à notre première série donc des auditeurs. Christophe qui est à Kindu, Joseph à Kinshasa et Dadi dans la même ville que José. Christophe, vous êtes avec nous à Kindu, bonjour.
Allô?
Allô, Christophe, bonjour. Christophe, vous êtes avec nous au Maniema. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous sortez entrecoupé malheureusement, mais toutefois je vais intervenir.
Hein, bah, allez-y, allez-y.
Parce que j'ai une idée avec moi.
Allez-y.
Je voudrais dire, comme l'avait dit monsieur l'invité du jour, d'ailleurs c'est un spécialiste, un militaire bien formé, et il a bien dit que la guerre se prépare. Et nous avons vite compris que les dirigeants de notre pays n'étaient pas suffisamment préparés pour gagner cette guerre. Maintenant, là, qu'ils ont pris au sérieux les histoires, nous croyons que nous allons gagner cette guerre définitivement. Cependant, que L'autre fois, j'avais intervenu. Je suis intervenu pour dire que la diplomatie, c'est une conséquence de la politique. Et la guerre, c'est une continuation de la politique par versement du sang. Donc, on ne peut pas séparer et la politique, donc la victoire politique, la victoire diplomatique, moins encore de la victoire militaire. Donc, il y a une chaîne de succès, commençant par la politique, passant par la voie militaire, nous allons chuter par la diplomatie. Aujourd'hui que le chef du M23 accepte de cesser la guerre, mais c'est un discours pour dire qu'ils sont faibles. Maintenant là, ils sont faibles. Moi, à mon humble avis, je me dis que c'est peut-être plus qu'on a pris. On est en train de prendre certains éléments dans le M23 qui seront intégrés aujourd'hui. Parce qu'après les concertations, tout ça, nous avons vite compris que les linge sale se lave en famille et nous devons parler en famille. On va tuer un nombre de gens dans le M23 qui seront intégrés dans les structures politico-militaires de notre force armée. Et ceux qui sont restés se sont abandonnés et par Rwanda, par l'Ouganda et par les autres qui étaient avec eux dans le même système. Que le gouvernement, nos militaires, ne soient plus distraits. Si aujourd'hui, l'un de négocier maintenant, puisqu'ils se sentent dans une position de faiblesse. Je disais l'autre fois que la diplomatie, c'est un argument de faible. Il n'y a que le faible qui peut croire définitivement à la diplomatie. D'ailleurs, je disais que si aujourd'hui, les Congolais que nous sommes en train de brandir à l'avant-plan, La diplomatie. J'avais dit que les chers étaient à genoux devant la fourmi. Maintenant que nous sommes restés ici, nous sommes debout, je demande à nos dirigeants, spécifiquement au chef de l'État, de doter des munitions appropriées à notre armée, de les supporter financièrement, conséquemment par rapport à la guerre, et d'aller jusqu'au bout. Et maintenant nous pouvons négocier avec le Rwanda directement, tout comme avec l'Ouganda, pour terminer définitivement la guerre. On nettoie, entrer jusqu'au fond profond de l'Ouest et de l'Est là-bas, balayer partout pour que les gens de l'Est, je viens de Goma, j'étais à Goma il n'y a pas longtemps, les gens souffrent, et si aujourd'hui ils ont commencé à clamer à nos forces militaires, je crois que c'est une interpellation pour les dirigeants de ces pays, et de prendre définitivement une position pour terminer la guerre, puisque nous en avons perdu de trop, et c'est de trop.
Merci
et
beaucoup.
S'il y a des spécialistes, comme le monsieur qui a parlé là-bas, nous lui demandons de porter conseil à nos dirigeants, dans l'optique militaire, afin que nous puissions définitivement
je crois que c'est
gagner
c'est
la guerre.
Oui, c'est
merci beaucoup,
monsieur. Merci beaucoup, Christophe, pour votre invité. Gouverne. Il est fait, je crois, en tant que membre de la commission défense et sécurité de la chambre basse du Parlement. Donc, je crois que c'est ce qu'il fait d'ailleurs au quotidien comme travail. Merci d'avoir participé à cette émission et vous nous avez rappelé, vous avez même appuyé le propos tout à l'heure de notre invité. La guerre se prépare et vous rassurez, vous êtes très rassuré maintenant que nos dirigeants se sont préparés pour réellement gagner cette guerre. Alors, vous avez donné l'adage qui dit la diplomatie c'est pratiquement la conséquence de la politique et vous souhaiterez qu'aujourd'hui les dirigeants puissent doter nos forces armées des moyens matériels et financiers conséquents pour permettre à ceux qui aient plus disons des aventures de genre de pouvoir insécuriser la partie est de la République démocratique du Congo. Merci Christophe d'avoir appelé des Kindu. Nous avons José qui est à Kinshasa. Bonjour José. Joseph, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, je crois qu'il est distrait. On prendra plutôt Dadi qui est à Kinshasa dans la même ville que Joseph. Dadi, bonjour.
Oui, bonjour, JF.
Voilà, Dadi, vous avez la parole. Vous avez suivi Christophe qui, au fait, a donné quelques pistes pour pouvoir capitaliser les succès et promouvoir le développement à l'est du pays. Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Oui, merci. Je m'en vais tout de suite là à féliciter nos voyants militaires qui combattent pour la cause de la République démocratique du Congo. Pour capitaliser ces avancées, j'aimerais ici d'abord demander à notre gouvernement de ne pas signer, de ne pas continuer toujours à signer les accords avec les rebelles. Parce que comme vous le savez, tout a commencé quand nos dirigeants de l'époque ont signé des accords avec les Rwanda, concernant l'accord de l'Emera, en passant par Lusaka, Amani 1, Amani 2, accord du 23 mars, et tout ça. Vous savez, c'est ce qui est à la base de toutes ces guerres-là. Parce qu'à chaque fois qu'on signe des accords avec les rebelles, ils se servent toujours de ces accords-là pour justifier leur rébellion. Alors nous disons que cette fois-ci, parce que notre armée a fait un effort à attaquer et continuer à attaquer, à arrêter cette guerre-là, qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Le président de la République a parlé des trois options, option militaire, diplomatique et politique. Vous savez, l'option politique, diplomatique n'a pas fait, parce que la République démocratique du Congo a donné, que ce soit aux pays voisins, que ce soit aux rebelles, ça n'a pas payé. Mais cette fois-ci, comme ça s'est dit à l'Est, d'Awanimoto, il faut appliquer la voie militaire pour mettre fin à cette guerre et exiger à ceux
voilà,
qui... La question,
que,
par exemple, aujourd'hui,
oui,
là, on peut mettre fin.
Daddy, je crois que oui, la voie militaire,
pardon,
c'est votre souhait. Oui, c'est votre souhait. Si nous revenons au propos du chef de l'État, donc il a dit, malgré les succès militaires des FARDC sur les M23, il y a quand même nécessité de maintenir les options diplomatiques et militaires pour amener réellement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci, Dadi, d'avoir appelé. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, JF.
Vous avez la parole, Ernest.
Bien, je crois que pour moi, la meilleure victoire militaire consiste à mieux gérer la période après la guerre. C'est-à-dire qu'il faut réinstaller l'administration, traquer tout suspect, parce que le M23, comme il n'avait pas seulement le personnel militaire, le M23 avait un personnel civil, avait une administration. Alors, les militaires peuvent sont pour chasser parce qu'ils ont des armes entre les mains. Et les civils, on reste sur place, dissimulé dans la population, parmi les réfugiés ou les déplacés. Alors, il faut que, après cette victoire militaire, que l'autorité de l'État soit rétablie à travers tous les services de l'État, de façon que cette période après la guerre doit être très bien gérée et la zone là, moi pour moi, je crois que ça doit être déclaré une zone d'urgence où les actions du gouvernement pour afin de parfaire le travail non seulement militaire, mais civil, par à travers les services de l'État, qu'on puisse être capable à récupérer sérieusement les esprits des habitants des territoires pour ne plus permettre à faciliter l'incursion ou les résistances des petits groupes qui sont cachés à gauche, à droite, et dénoncer que l'armée puisse gagner la confiance des habitants pour dénoncer, montrer là où il y a des caches d'armes. Et même dans la société, montrer les militaires qui sont devenus civils à cause de cette traque qui est devenue une victoire sérieuse pour l'armée congolaise. Donc, je préfère qu'on dise en ces mots que l'autorité de l'État soit rétablie d'urgence et que cette zone soit une priorité, non seulement que les activités. D'ailleurs, même le gouvernement provincial peut quitter Goma pour s'installer là où il y avait la base réelle.
Voilà, merci beaucoup Ernest. Là, si je comprends bien, vous souhaitez qu'on puisse relancer encore le projet DDR, veut dire simplement des armements, des mobilisations, réinsertion et puis rapatriement des militaires. Donc je crois que on va revenir avec notre invité qui pourrait nous éclairer là-dessus, parce que il y a vos propos en fait rejoignent également les propos d'un Kudam qui disait nous ne sommes qu'au début d'une offensive, il faudra attendre quelques jours avant de tirer les premières conclusion, soit le M23 est défait militairement, soit il se réorganise, il en a les moyens et peut renverser les rapports de force. On va poser également la même question à notre invité tout à l'heure. Avant de prendre Madame Maneno, qui est à Kinshasa. Madame Maneno, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Et merci d'accepter de participer à cette émission. Vous êtes un gouverneur honoraire de ce pays. Vous suivez de près cette actualité. Et tout à l'heure, quand vous nous avez appelé, vous insistez sur les projets de développement qui doivent être faits au niveau de cette partie du pays, mais tout en émettant quelques inquiétudes par rapport à ces succès réalisés par nos militaires.
Absolument. D'abord, je tiens à remercier évidemment nos vaillants soldats. Je remercie la population qui habite les zones de combat parce que elle a compris que le premier agent de sécurité, c'est d'abord elle-même, car elle est partout et puis elle connaît qui réellement habite avec elle. Et puis, pour paraphraser le chef de l'État qui a dit qu'il faudrait poursuivre les autres groupes armés, là, je préfère insister sur le groupe FDLR. Le groupe FDLR qui est sur notre territoire depuis 20 ans, comme nous tous nous savons, en faveur d'une opération dite opération turquoise. Et que constatons-nous aujourd'hui? Les FDLR ont l'âge qui varie entre 15 et 25 ans. C'est dire que ces gens sont sur notre territoire en train de pérenniser le phénomène FDLR. Car là, il y a rajeunissement de troupes. Et puis, nous devons savoir que ces troupes, ces groupes, c'est un groupe bien organisé, où chacun a un rôle bien vital à jouer. Je prends, disons, le rôle des femmes et le rôle des enfants de ce groupe-là. Les femmes sont là pour mettre au monde des futurs FDLR et leurs enfants qui fréquentent les écoles depuis 20 ans avec nos enfants ont eu la facilité d'en faire des amis et donc plus tard de les recruter soit pour leur compte propre ou d'en faire des groupes armés à leur solde, donc au solde des FDLR ou au solde de l'étranger. Et ainsi maintenir l'Est de la République embrasée. D'où je considère que tous les gens vivant dans nos forêts, avec des FDLR, qui sont dans nos parcs ou sur nos sommets de montagnes, en tout cas ne peuvent pas être considérés comme réfugiés, ils doivent être traqués et afin d'être qu'ils déposent leurs armes et qu'ils soient amenés ailleurs. Et j'ai pris la communauté internationale de s'y mettre parce qu'ils savent comment ces gens sont arrivés sur notre sol. Ils n'ont jamais été invités et comme ça, nous pouvons commencer maintenant le développement. Parce que la propension de nuisance de ce groupe-là n'est plus à démontrer. Et tout effort que nous pouvons entamer aujourd'hui ou demain, en tout cas, sera vain aussi longtemps que ces gens-là seront sur notre sol.
Merci.
Sur notre sol.
Merci beaucoup, Madame Madeno, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué à cette émission. Et à la prochaine. Voilà, nous revenons à vous, Général Boulay. Vous avez suivi les uns les autres, hein, tout en rappelant encore à d'autres qui aimeraient bien intervenir dans cette émission qu'ils peuvent composer le 081-890-49-69.
Votre connexion Internet est trop lente? RadioOkapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. RadioOkapi.net à votre service.
Merci de votre fidélité. Nous revenons à vous, Mohamed Boulay. Vous avez suivi les uns les autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a vraiment la matière. D'autres personnes ont pu, tout en encourageant nos FRDC, faire quelques propositions. D'autres, par contre, restent un peu inquiets. Ils disent, ben voilà, c'est comme un succès en dents de scie, ça peut revenir et tout. Il faut vraiment capitaliser. Mais pour les capitaliser, il y a aussi ces problèmes régionaux qu'il faut résoudre. Et d'un côté, et de l'autre côté, il y a des problèmes de moyens qu'il faut mettre à la disposition, de nos militaires pour que finalement, ils puissent prendre quand même les choses au sérieux.
Merci. Je voudrais remercier tous les intervenants pour la pertinence de leurs préoccupations. Je voudrais tout simplement leur donner aussi raison, parce que les M23 déclaraient de manière unilatérale cesser le feu, mais nous devons être prudents. Est-ce que ce n'est pas une digression? Est-ce que ce n'est pas une manœuvre de déception pour nous distraire et se réorganiser et commencer à contre-attaquer par petits groupes et tout ça? Ça, les services de renseignement qui sont sur le terrain doivent faire beaucoup d'attention et pour prendre des mesures conséquentes afin de s'organiser et en centre de résistance et pour que plus jamais ces éléments n'aient le temps de se reconstituer et de venir. C'est un début de commencement. Nous voulons dire que c'est vraiment l'axe d'effort principal parce que la province du Nord Kivu a des problèmes au niveau des Rutshuru, au niveau des Masisi, au niveau des Bunagama et au niveau même des Mutuanga qui est Vignong et partout, sur le contrefort de... C'est-à-dire qu'il faut d'abord terminer avec ces paquets-là et puis poursuivre les efforts pour pacifier totalement le Nord Kivu. Il n'y a pas que le Nord Kivu, le Sud Kivu aussi a ses réalités, avec des éléments FDLR, avec des FNL, et avec les groupes armés, tant du Nord et du Sud Kivu, la province orientale également. Et donc, vous comprenez que la mission est vraiment, c'est une mission très périlleuse, il faut beaucoup de moyens. La logistique a ses exigences. Nous voyons sur les images ces engins qui se déplacent, qui consomment, qui crachent du feu. Les bombes ont leur coup. C'est pour dire il y a beaucoup d'efforts que nous devons faire. Peut-être dans la conclusion, nous y reviendrons pour pouvoir dire les ressources pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut penser autrement parce que nos propres ressources nous suffisaient-elles pour appuyer totalement les efforts? Oui, dans une certaine mesure, mais les ressources extérieures, c'est là où le problème se pose, parce que nous courons vers ces pays dits industrialisés, selon leur bonne foi, ils nous donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent bien nous donner, et ce n'est pas une donation gratuite, parce que ce sont des dettes qui s'accumulent, que nous devons donc payer. Il est vrai, donc la préoccupation des uns et des autres, il faudrait d'abord terminer avec cet effort principal, neutraliser, et en même temps au gouvernement, comme je l'ai dit, de faire le bilan pour que petit à petit, j'ai vu dans les images les gouverneurs donc réinstaller les chefs de cité des Rutshuru, c'est un commencement. Il faut voir maintenant, parce que les M23 avaient une administration parallèle, avaient l'air administrateur du territoire et j'en passe. Même les paiements des taxes exagérées, nous avons suivi les déclarations d'une maman qui parlait d'un carton d'eau et ainsi de suite. Et donc tout ça, ce sont des opérations conjointes qu'il faut mener les efforts sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, et ça c'est les gouvernements, et aussi sur le plan de la territoriale, c'est une fois de plus, c'est les gouvernements. Et les mesures pour l'ordre public, la police qui doit venir pour appuyer les efforts de façon à sécuriser les gens qui rentrent chez eux et aussi tenir compte de la communauté pour que des barzas communautaires s'organisent pour qu'il n'y ait pas de conflits, qu'on se dispute des petits lopins qu'on a trouvés occupés par les uns et les autres. Et donc ce sont des opérations qu'il faut vraiment minutieusement, chacun dans son domaine, et la partie militaire dans son domaine et les autres services public de l'État, les autres institutions
sont impliquées. C'est pourquoi le chef de l'État, avant que vous poursuivez, le chef de l'État a dit, malgré le succès militaire, ben c'est nécessaire de maintenir les options diplomatiques et militaires pour amener effectivement la paix.
Tout à fait, parce qu'il y a des engagements. Et si nous devons être respectueux de ce que nous avons signé comme engagement, il faut prendre ça en compte sur le plan politique et diplomatique. Parce que la communauté internationale y revient. Même chez nous, nous devons examiner, évaluer les contenus et l'avancée, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé par les uns et les autres. Je dois dire, parce que j'ai tous ces textes par devant moi ici, je dois dire que la violation de ces textes par les M23 est assez criant, parce que là, on parle même des spoliations, on fait des viols et tout ça, mais ils n'ont pas respecté cela. Aujourd'hui, ils ont pris cette population pour essentiel. Mais je ne sais pas, les M23 tirent, on a signé un accord, mais les M23 s'appuient sur cet accord signé le 23. Et alors, quand je vois sur les 447 partis politiques, les CNDP, dont faisaient partie ces éléments des M23, figurent à notre équipe 94e parti politique sur les 447 à ce jour.
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a le succès des FARDC. Sur les terrains, on demande également que, au niveau de Kampala, les dialogues puissent se poursuivre. Entre-temps, les auditeurs qui nous ont écrit, nous avons vu les messages. Certains ne sont pas favorables pour la poursuite de ces dialogues, parce que selon eux, il y a toujours manœuvre dilatoire de pouvoir intégrer ou réintégrer l'armée congolaise. Ils n'en souhaitent pas autant.
Je crois dans le cas d'espèce, c'est M23, c'est à une branche des ex-combattants ou des combattants, avec un haut commandement militaire dirigé par Makenga, qui du reste est un haut commandement militaire, c'est lui le chef de ces éléments, de ces groupes armés. Mais sur qui il y a beaucoup de problèmes liés à la criminalité. D'abord, c'est tous ces officiers-là qui ont incité les militaires, parce qu'ils étaient pour la première fois intégrés, qui les ont incités à la désertion massive avec du matériel de l'armée. Eh bien, l'épée de Damoclès se pèse par-dessus leur tête. D'un côté, le code pénal militaire congolais, le code pénal ordinaire, et de l'autre côté aussi, les dispositions de la CPI. Et donc, qu'on ne s'en cache pas, beaucoup n'en bénéficiera pas d'aucune condition d'éligibilité pour les forces armées. Ça, c'est clair. Donc, quand on a déserté avec du matériel et avec des tueries, avec des violations et tout ça, mais écoutez, que la justice fasse son affaire. J'ai dit ici, il faudrait que le conseil de guerre opérationnel accompagne les troupes au combat.
Voilà, on va revenir sur ce qu'a dit un auditeur tout à l'heure, il y a quelques minutes, Dadi, qui parlait de cette approche désarmement, démobilisation et insertion. On va y revenir d'un moment à l'autre, le temps d'accorder la parole à une autre série des auditeurs. Il y a Eugène qui est à Kinshasa et ici Rachel à Isiro. Eugène, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, je salue l'intervenant, je salue les forces de notre pays, les forces armées, les unités de l'OCAPI et la radio OCAPI pour nous offrir cette occasion. Moi, j'ai une inquiétude. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer à Kampala alors que ces gens sont là, ça fait plus de 10 mois. Ils n'ont pas pu trouver un accord. Maintenant qu'il y a le succès des forces armées, que tout le monde salue, et au passant, nous le félicitons. Félicitons le commandant suprême. Et lorsqu'ils vont rentrer, parce que tout le monde crie, surtout la communauté internationale dit qu'ils rentrent autour de la table, est-ce que vous êtes sûr que cette fois-ci, ces gens vont changer leur position, malgré les défaites qu'ils venaient de subir sur le terrain, ou ils vont, s'il faut paraphraser les autres, faire perdre le temps au gouvernement, en train de tournoyer, en attendant de s'organiser, et une fois peut-être dire, voilà, le gouvernement ne respecte pas, ou ne veut pas écouter, ne discuter, et revenir encore avec les forces, parce que le pareil rwandais, il faut le reconnaître, c'est un secret pour personne, même la communauté internationale avait accusé ce pays de le soutenir. Donc le pareil, apparemment, ne digère pas cette défaite militaire. Alors, quelle consigne va-t-il donner à ces poussins là où poulet, comme on dit, ces gens, de faire que la situation puisse être trouvée une fois pour toutes et qu'il soit négocié. Par après, j'ai une autre préoccupation. En ce qui concerne les autres groupes négatifs, tels qu'ils étaient, ils étaient déclarés. Bon, quelle est la disposition qui est prise, surtout FDLR? Parce que nous voyons chaque fois, même du temps de CNDP, lorsqu'ils étaient là, ils déclarent FDLR. Vous sentez qu'ils sont au service du pays qui est le Rwanda, et qui leur demande, à chaque fois que vous voulez bien vous défendre pour être écouté par la communauté internationale, il faut dire, il y a les FDLR, ils sont au sein de forces telles, ou bien au service du gouvernement, pour bien être appuyés par la communauté. Alors, quel est le sort vraiment qu'on réserve cette fois ici aux FDLR, que vraiment ces groupes qui donnent l'occasion à nos ennemis là de venir chaque fois tuer nos familles, nos enfants et nos parents?
je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qu'on pense de ça. Même, on a dit la brigade d'intervention qui est venue là devrait combattre toutes ces forces-là, M23 compris. C'est vrai, aujourd'hui, elle appuie nos forces armées pour combattre le M23, mais quel est le sort que cette brigade ou le programme que cette brigade prévoit pour les FDLR, surtout. Voilà un peu, monsieur.
Voilà, merci beaucoup. C'est pratiquement la même préoccupation qu'avait Mme Maneno tout à l'heure, quand elle a évoqué les problèmes des FDLR, et ça nous a ramené à rejoindre même les points de vue de Ernest Abatadi, qui parlait d'un programme qui devait assurer, au fait, le désarmement, le rapatriement ou encore la réinsertion de ces militaires ou de ces mouvements rebelles. Voilà. Et même, ça engage aussi les débats au niveau de la région. Hein. Nous savons que à un certain moment, certaines volontés de la région voulaient très bien que le même dialogue qu'on exige au niveau de la RDC soit aussi organisé, soit au Rwanda ou encore à l'Ouganda. Mais voilà, donc il y a un peu de dialogue.
Organisé des concertations, parce qu'on a senti que entre les Congolais, entre les fils et filles congolais, il y avait quelque chose, il y a des problèmes, peut-être qu'ils devaient se parler, trouver des solutions, et une fois ces solutions mises en application, la paix reviendrait aux Congolais. Et
voilà,
les Congolais se sont réunis.
Voilà,
mais au Rwanda, on ne se réunit
pas. Avec les FDLR, et l'Ouganda avec les ADF-NALU. Donc voilà.
Ne viendrait que de la RDC, où on ne comprend pas. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on sente aussi que non. De part et d'autre, tout le monde a des problèmes. Et
voilà, c'est pourquoi ils gênent. C'est pourquoi
les gens ont fui les Rwanda. Nous avons déploré tous, condamné les génocides. C'est vrai, mais si ces gens sont arrivés, on le laisse et ils sont là, et après on incrimine le pays qui les a accueillis et les groupes qui sont créés, ces groupes-là combattent ou au service de ces mêmes pays, et la communauté internationale des fois trouve comme si c'est vrai, il faut combattre les génocides. Alors, et nous, quand est-ce que nous sentirons qu'ils sont prêts à s'entendre chez eux, ils sont prêts à organiser aussi quelque chose qui peut faire que...
Voilà, merci beaucoup Eugène. Je crois que ce n'est plus un secret, parce que le président tanzanien est monté d'ailleurs au créneau pour insister sur cet aspect des choses. Une fois, Jakaya Kikwete l'a si bien dit, il faudrait qu'il y ait dialogue au niveau de Rwanda, de Uganda, ainsi que au niveau de la RDC. Voilà, c'est ce qui est fait. Et le chef de l'État a encore émis la volonté de vouloir maintenir les options diplomatiques et militaires. C'est vrai, les militaires sont au front, les aspects diplomatiques vont continuer, et ça va permettre à ce que de nous puissions au niveau de la région créer un lobbying afin d'arracher ces dialogues au niveau de Rwanda et de l'Ouganda. Merci beaucoup Eugène d'avoir appelé. Général Boulet, on revient encore à vous. Merci. Les autres inquiétudes, si on peut encore avancer rapidement avant que nous accordions la parole à Rachel et à Daniel.
Mais les inquiétudes sont bien fondées. Nous voulons dire de recommandations remises au chef de l'État issues de concertations nationales. Il a été formellement recommandé de traquer, de mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés étrangers et nationaux. C'est un début, je l'ai dit. Et au niveau du Nord Kivu, les opérations qui sont menées là-bas, je ne suis pas entré ici d'entrer dans les secrets que les hauts commandements militaires, les structures politico-militaires s'en chargent pour voir dans les jours à venir qu'est-ce qui doit être planifié dans le cadre général en direction et du Nord Kivu pour traquer les FDLR, les FNL avec les groupes armés du Sud Kivu, en même temps poursuivre ce succès-là pour exploiter ce succès et traquer tous les groupes armés de nationaux qui sont dans le Nord Kivu, et c'est y compris les NALU ADF, et dans la province orientale, les groupes armés nationaux, les Mbororo et le LRA, s'il y a encore des résiduels. Et donc, j'ai dit ici, ce sont des opérations de très longue haleine et qui ont un coût. Il faut soutenir cet effort-là. J'ai dit ici, peut-être dans le mot de conclusion, je le dirai, qu'il faut vraiment prendre ça très au sérieux parce que le coût est énorme. Il faut prendre les militaires en charge, il faut leur donner les moyens nécessaires pour combattre et réussir ces opérations, il faut également le réarmement moral parce que sur le terrain, il y a aussi des pertes, on ne peut pas le dire, mais de toutes les façons, ça,
c'est au niveau du haut commandement militaire de faire l'évaluation, de voir...
Un travail de fond a été déjà fait au niveau de la réforme
Un travail de fond est fait et tous les textes, tout l'arsenal juridique est là. Au moment où il y a le front qui s'ouvre là-bas, c'est le moment justement de la montée en puissance. Voilà les premiers éléments des unités de demain que nous voulons, des unités professionnelles qui sont en train de faire une bonne démonstration. Il faut les appuyer financièrement. Nous, Congolais, nous devons penser à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les ressources extérieures nous posent problème. Pourquoi ne pas nous organiser? J'ai entendu un citoyen intervenir sur une chaîne de télévision dire, mais pourquoi ne pas nous mobiliser pour mettre les paquets qu'il faut pour qui, remettre qui, un dollar, des dollars. Et vous verrez que sur les 70 millions que nous sommes, si on le fait et que de bonnes fois que cela soit géré, on peut avoir facilement récolté, nous savons qu'il y a des impôts et tout ça, on peut facilement récolter plus de 10 milliards par an, ce qui n'est pas peu, et je pense que ceux qui nous accordent leurs moyens aux conditions qu'ils nous imposent, vont quand même se rendre compte que la République démocratique du Congo est en train de s'armer autrement, de changer de mentalité pour se prendre en charge. Et c'est cela. C'est vraiment cela. C'est une réflexion qui reste ouverte. Et je pense que ce citoyen n'a pas eu tort. Et nous pouvons certainement, nous, comme parlementaires, aussi réfléchir comment faire pour amener un plus-value à ce que nous avons. Parce qu'on ne pourra jamais régler ça avec le budget ordinaire, je l'ai toujours dit.
Voilà, nous avons Rachel qui est à Isiro et Daniel Al-Bashi. Rachel, merci de nous rejoindre et un coucou à tous ceux qui nous suivent à Isiro dans la province orientale. Nous avons évoqué des Mororo, des Elera. Mais voilà, je crois que c'est à vous qu'on nous accorde la parole tout à l'heure. Donc Rachel, bonjour et merci de nous rejoindre.
Allô, bonjour, merci à vous aussi.
Voilà, votre point de vue, Rachel.
Ce que je dirais, c'est que ma soeur va dire que c'est vraiment pour nous un grand plaisir d'entendre qu'il y a encore la paix qui revient petit à petit à l'Est, parce que c'est l'inquiétude, c'est une inquiétude qui nous dérange tous. Et ce que j'aimerais encore dire, c'est qu'on doit continuer à renforcer l'armée. Donc l'armée qui est à l'Est, c'est dans ça. Il ne faut pas encore plus laisser nos sages qui sont partis, qu'on les laisse. Non, ces gens-là sont très mal et ils peuvent encore revenir et à force encore. Ce que va faire, c'est de continuer à renforcer l'armée qui se trouve à l'Est pour que si ces gens-là osent encore de revenir, qu'ils puissent trouver notre armée capable encore de les battre. Et autre chose que je veux dire, c'est en parlant du dialogue. Vous ne voyez pas que cette histoire-là, c'est vraiment gaspiller les temps pour rien. Parce que ces gens-là, comme je le dis, ces gens-là sont très malins. Et ils viennent ici massacrer. Et quand ils voient que non, ils sont un peu faibles là, on est en train de faire des dialogues pour aller passer les temps pour eux. Alors que c'est ce qu'ils veulent, c'est de nous faire du mal. Et pourquoi pas nous aussi de les montrer que nous aussi on sait faire du mal, que de faire des dialogues qui n'aboutissent à rien. C'est ça.
Merci beaucoup, Rachel, d'avoir appelé. Nous prenons Daniel qui est à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Daniel.
Bonjour, JR.
Vous avez suivi vos prédécesseurs. À votre tour. Oui.
Je suis content d'avoir intervenu pour la première fois dans cette émission et je suis régulièrement parole pour vous.
Voilà, le plaisir est partagé. Hein. Nous sommes très fiers aussi de vous accueillir pour la première fois.
Je suis hier. Mon intervention va tout d'abord commencer comme Congolais, compatriote congolais, en remerciant nos forces armées pour les prouesses qu'ils sont en train de nous fournir à l'aide. Nous suivons de cette situation de Lubumbashi, de loin par rapport à Goma, mais nous suivons la situation du jour au jour au travers de la radio Kapi et d'autres médias qui nous informent sur la situation. Alors, je voulais dire, pourquoi notre gouvernement peut toujours revenir sur les négociations? Et les réactions que je suivais toujours en ce qui concerne la guerre à l'Est avec les M23, ça montre d'abord que les M23 sont des gens qui ne sont pas sérieux. Tout au début, là, quand ils prenaient Goma, ils avaient des revendications, ils ont déclaré comment ils voulaient la libération des prisonniers, la libération des mouvements de tout ça. Et par après, ils se sont fait la guerre entre eux, ils se sont divisés. Et on finit, nous, la population, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Des revendications floues. Et maintenant, pourquoi le gouvernement congolais fait toujours s'appuyer parfois dans les pressions de la communauté sénégalaise sur les négociations? On invite toujours le gouvernement congolais à revenir. Quand j'ai suivi les interventions de nos compatriotes de l'Est, ils insistaient sur la position militaire qui devait primer sur cette question de l'Est. Et nous voyons, quand les militaires se sont mis au front avec les moyens qu'il fallait, la solution est en train de se faire voir et les résultats sont partout. la même communauté internationale, quand elle intervient pour demander au président ougandais, au président rwandais pour qu'il négocie avec les RLV, ils sont catégoriques. C'est leur position qu'ils prennent par rapport à leurs intérêts et à, qui tombent à leur faveur. Et si nous, gouvernement, nous trouvons que les M23 n'ont pas vraiment des revendications qui paraissent au grand jour, alors pourquoi toujours continuer dans cette voie qui par rapport encore nous ramener à la case de départ? Moi, je pense que le gouvernement, cette fois-ci, essaie de se rallier à cette position qui est vraiment claire de la population, de l'aide, voilà. Que la solution est militaire et en finir une fois pour toutes, parce que d'autres rébellions qui pourront réitérer les histoires de M23 seront piquées au fait. Et par des faits, ils ne pourront pas revenir sur ça.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé. Nous profitons d'ailleurs pour lire quelques messages. Didier Djamba, merci de nous avoir écrit. Vous dites que dans cette étape, parler de succès, c'est très tôt. Les succès peut-être après 2016, quand ils vont échouer, mais dans ce stade, pas encore des commentaires. Arafat Tchamoula, le M23 n'est pas le seul groupe armé opérant à l'est du pays. Il y a au moins 40 groupes armés éparpillés sur l'ensemble du pays, que les FARDC devront éradiquer définitivement et complètement. Restons donc vigilants et le moment n'est pas bien choisi pour parler développement de l'Est du pays. Papy le patriarche, moi personnellement j'ai du mal à voir que nous étions incapables de chasser le M23. Il a fallu l'aide de la force d'intervention de l'ONU. Alors la question qu'il faut se poser est de savoir les pays que, disons, d'où sont venus ces militaires qui constituent la force d'intervention. Bertin Iringue, cette victoire nous appartient à tous comme fils de ces beaux pays, mais alors il faut que le pouvoir central prennent ses responsabilités afin de motiver nos militaires qui sont sur les champs des batailles. Justin Gakwiraki, depuis Butembo. Je pense que pour éradiquer d'autres armées opérant à l'Est, il faut que la force armée nationale fournisse plus de forces comme elle a eu, plus d'éloges de la part de la population en mettant hors d'état de nuire les rebelles de M23. Je salue vraiment cet acte patriotique. Je souhaite que notre armée ne soit plus dictée. Voilà, Passi Kazaro, depuis Kassai Oriental. Pensez directement au développement, on risquera d'aboutir à un projet d'éléphant blanc. C'est plutôt la pacification totale qui nous permette de bien engager les développements pour un projet pilote au FARDC, une bonne motivation et un équipement militaire qui leur permettra de mettre hors d'état de nuire l'ennemi et une formation adéquate. Kate Kerina, l'Est est devenu fragile certes, mais l'union fait la force, comme on l'a dit. Ensemble, l'Est peut se reconstruire. Exploitons ce qu'il y a à exploiter et que tout le monde apporte son morceau de bois pour que le feu brûle. Oh, voilà, honorable, je reviens encore à vous. Je crois que le temps nous fait défaut. On va peut-être chuter maintenant. On va conclure par rapport à cette question, à cette thématique du jour. Nous l'avons tout suivi. Il y a des avancées énormes. Les FARDC, appuyés par la MONUSCO, ont récupéré certains territoires et autres villes, jadis occupées par le mouvement rebelle M23. La plus grande question, la question principale que nous nous sommes posée aujourd'hui, comment capitaliser ces succès et promouvoir le développement dans les jours à venir?
Comment capitaliser ces succès? Je voudrais dire que la raison d'être, de poursuivre les actions politiques et diplomatiques. Et pourquoi? Parce que les éléments du M23 qui ont traversé de l'autre côté, on va voir la volonté de ces pays qui ont reçu et des déplacés civils, et cela.
Dans le Rwanda et le Luganda.
Bien sûr, dans le Rwanda et le Luganda. Parce que l'Union africaine, les Nations unies, et même la SADC et la CIRG sont témoins. Parce que dans les derniers accords de Kampala, d'Addis Abeba, on ne comprendrait pas si ces éléments qui ont traversé continuent à avoir leurs armes et qui n'ont pas été désarmés et mis à la disposition soit des HCR ou des CICR et les éloigner le plus loin possible des frontières pour les mettre là où ils peuvent être sous le contrôle de ces deux institutions-là, HCR et CICR. Et si ce n'est pas cela, et donc la diplomatie de notre côté, nos ambassadeurs qui sont dans ces pays-là, doivent faire les rapports à qui des droits pour signaler cela, pour que, en même temps que nous puissions porter l'affaire à la place publique, qui, à l'Union africaine, qui au Conseil de sécurité, pour dire voici ce que les autres font, ils ne respectent pas ce qu'ils ont fait. Et les autres opérations, ce n'est qu'un début, je l'ai dit, parce qu'il faut maintenant attaquer aussi les éléments, mener des opérations similaires en direction du nord, du Sud-Kivu, pourquoi pas en direction du nord Katanga, pourquoi pas dans la province orientale, je l'ai dit, contre les LRA et les Mbororo, et donc ça nécessite de gros moyens. Il faut une bonne planification, une bonne programmation et mettre les moyens conséquents aux forces armées.
pour pouvoir mener à bien ces opérations.
Mais en attendant cette planification-là, mais sur le terrain, comment nos militaires peuvent maintenir ces succès?
Après le succès, qu'est-ce qu'on fait? On se réorganise. On consolide les positions de façon que qui vient, quiconque qui essaierait de venir s'y frotter, s'y pique sérieusement et reste même, il peut même laisser ses
filles. Il faut un effectif considérable.
Il faut amener des stratégies spécifiques. Je l'ai dit, ce terrain, c'est le Graben. C'est un milieu difficile, aux conditions dramatiques. Et donc, tout cela, je crois qu'au niveau des stratégies, je ne peux pas donner les détails.
Je sais que les détails vont donner pour
apprécie, évalue et prend des mesures conséquentes qu'il propose au commandant suprême à travers la structure, le Conseil supérieur de la défense et pour la poursuite de la mise en œuvre.
Dans cette planification, il est quand même nécessaire aussi de penser à un programme de désarmement, de démobilisation.
Bien sûr, ça entre dans la ligne de compte. Le désarmement, c'est dans le cadre des mesures de pacification pour que ceux qui viennent déposer les armes, mais ceux qui le veulent, le président de la République l'a dit. Donc, c'est des gens, un passage tout à fait étroit où ils sont pris entre le feu et tout ça, ils ne savent pas diplomatiquement. Ils ont perdu beaucoup de choses, et maintenant, s'ils ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas déposer les armes, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Et donc, on va les traquer. Et donc, la recommandation a été forte et soutenue par tout le monde, tous les délégués aux concertations nationales, et c'est ce qui va être d'application.
Donc, nous retenons qu'il y a possibilité de capitaliser ces succès, tout en mettant des stratégies appropriées afin d'y arriver.
Tout à fait. Il faut capitaliser, il faut des mesures psychologiques et des mesures de pacification concrètes, parce que chaque région a ses spécificités. Rutshuru a ses réalités, Masisi a ses réalités, Beni a ses réalités, Mutuanga, Kiavunyonge, Lume ont également leurs réalités et également Bounoga.
Mohamed Boulay, général à la retraite, vice-ministre honoraire de la Défense, actuellement honorable député. Merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Voilà, nous disons merci à vous tous qui avez participé à cette émission. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à Jean-Noël Mokondo, Nadine Foula, Titi Poutou qui ont réalisé cette émission qui a été présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. On prend rendez-vous avec vous demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.